Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Studio Gaco. Donc aujourd'hui on occupe l'antenne et ce pendant 30 minutes. Donc merci d'avoir choisi Culture Flip. On espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va super. Donc aujourd'hui au programme, on a tous les chroniqueurs autour de la table qui vont nous parler d'une thématique en lien avec la culture. Donc on a Lenny qui va nous parler des réseaux sociaux et de ses impacts. On a Loan qui va nous parler du tourisme culturel. On a Jérémy qui va nous parler des événements sportifs liés au spectacle culturel. Thibaut qui est là-bas à la régie, qui va nous parler des avantages et des inconvénients des plateformes de streaming musical. Et tant qu'à moi, je vais vous parler des plateformes de streaming et des impacts négatifs sur le cinéma. Donc voilà, bah, on va commencer avec la chronique de Jérémy. On t'écoute.
Oui, bah, bonjour à tous. Je me présente, comme à Dugo, je suis Jérémy. Donc, explorez avec nous comment les événements sportifs ne sont pas seulement des compétitions, mais aussi des spectacles culturels à parts entières. Donc les Jeux Olympiques y jouent un rôle crucial en tant que vitrine mondiale de la diversité culturelle à travers le sport. Ils rassemblent des athlètes du monde entier, représentant une multitude de cultures, de traditions et de modes de vie. Mais ils permettent aussi aux artistes de se promouvoir également. Donc si nous plongeons plus dans le monde du street art et découvrons comment les artistes urbains intègrent la culture sportive dans leurs œuvres, des graffitis aux installations artistiques, on pourrait voir comment les rues deviennent-elles des galeries d'art éphémère qui célèbrent l'essence du sport et de la culture locale. Donc les rues peuvent devenir des galeries d'art éphémère qui célèbrent l'essence du sport et de la culture locale grâce à différentes formes d'expression artistique et d'initiatives communautaires.
J'aurais une petite question pour toi, Jérémy. Quelles sont les différentes formes d'expression artistique et d'initiatives communautaires ?
Oui, donc il y a plusieurs formes d'expression artistique et d'initiative communautaire, comme tu l'as dit, Loan. Donc déjà, il y a des artistes locaux et internationaux qui peuvent créer des œuvres murales qui représentent des athlètes, des moments sportifs emblématiques ou des symboles culturels liés au sport. Donc ces graffitis peuvent être réalisés sur des murs autorisés, des bâtiments et d'autres choses comme des espaces spécialement dédiés. Donc ces projets de murales collaboratives, ils impliquent la communauté locale. Les résidents peuvent alors contribuer à la création d'œuvres d'art qui représentent leur passion pour le sport et leur fierté culturelle, donc transformant ainsi les murs de la ville en un reflet dynamique de la diversité locale. Donc les organisateurs d'événements sportifs locaux vont pouvoir collaborer avec des artistes pour intégrer des installations artistiques temporaires le long des parcours des compétitions. Donc ces œuvres, ils pourront servir par exemple, à inspirer les participants et à créer une atmosphère vraiment vibrante pour les spectateurs. Donc des festivals d'art urbain peuvent être organisés, mettant en vedette des performances live, du street art, des expositions éphémères, des installations interactives liées au sport et à la culture locale. Ces événements, ils attirent souvent un public très diversifié et créent une dynamique culturelle unique dans les rues.
Et que peuvent utiliser les artistes et les artisans locaux ?
Donc les artistes et les artisans locaux, ils peuvent utiliser les espaces publics pour exposer et vendre leurs créations liées au sport. Donc cela peut inclure des articles artisanaux tels que des sculptures, des bijoux, des vêtements et d'autres objets d'art qui incarnent l'esprit sportif et culturel de la communauté. Donc il y aura aussi des initiatives de revitalisation urbaine qui vont inclure des éléments artistiques qui reflètent l'histoire sportive locale. Donc cela pourrait impliquer, par exemple, la création de fresques représentant des athlètes locaux notables, des moments sportifs mémorables ou des motifs culturels significatifs. Donc des collaborations entre artistes et organisations sportives peuvent alors avoir lieu et donner naissance à des projets artistiques uniques, comme par exemple des installations éphémères qui pourraient être créées pour célébrer des événements sportifs locaux importants.
Est-ce qu'il y a des langages universels ?
Alors oui, il existe plusieurs langages universels que tout le monde connaît, à savoir le sport et la musique. C'est deux langages universels qui transcendent les frontières culturelles et qui vont s'unir, par exemple, dans les hymnes sportifs, dans les performances musicales, ce qui va donc renforcer les collaborations entre athlètes et artistes qui nous montrent des moments culturels mémorables. Et voilà, donc je vais maintenant passer le relais à Loan.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce mardi 19 décembre pour aborder un sujet actuel de la culture. Comme vous l'aurez deviné, il s'agit bel et bien du tourisme culturel. Tout d'abord, connaissez-vous le tourisme culturel ?
Non, pas vraiment.
D'accord, bon c'est simple, le tourisme culturel est un genre de voyage qui met l'accent sur la découverte et l'exploration de la culture, d'un pays ou d'une région. Cela peut inclure la visite de sites historiques, de musées, de monuments, d'événements artistiques, des festivals et bien plus encore. Ce voyage est une façon de plonger dans l'histoire, les arts, les traditions, les événements culturels. Vous ne trouvez pas ça surprenant ? On frôle l'irréalité. Il faut savoir que le tourisme culturel est un secteur d'intervention prioritaire pour stimuler la création d'emplois, notamment en direction des jeunes. Or, vous vous doutez bien que la pandémie du Covid-19 a freiné le tourisme culturel dans sa lancée. Tout au long de l'année 2020, les arrivées internationales ont chuté de 74% dans le monde entier. Dans ce contexte nouveau, le tourisme culturel est un des premiers atouts de la destination France, avec près de 44 000 monuments et sites protégés, 45 bien classés par l'UNESCO, 8 000 musées, dont 1 200 labellisés Musées de France, et 500 festivals. L'offre culturelle et patrimoniale a un rôle de premier plan à jouer dans sa relance. J'ai une question encore à vous poser. Selon vous, quelle est la région la plus touristique en France ?
Moi, je dirais que c'est l'Île-de-France.
Bien joué, Hugo, c'est la bonne réponse. En effet, c'est l'Île-de-France. Il est intéressant d'en savoir davantage sur notre culture française. Le tourisme culturel en Île-de-France. Savez-vous que l'Île-de-France bénéficie d'une offre culturelle, patrimoniale et artistique très riche sur l'ensemble du territoire ? Cette région abonde des trésors culturels avec notre capitale Paris, offrant une multitude de sites emblématiques tels que la Tour Eiffel, le Louvre, Notre-Dame de Paris. À cet effet, et suite aux premières rencontres franciliennes, culture et de tourisme, qui se sont déroulées le mardi 6 décembre 2022 à l'Institut de France, la Direction régionale des affaires culturelles DRAC et le Comité régional du tourisme CRT ont signé une convention triennale afin de poursuivre et d'approfondir le dialogue entre professionnels du tourisme et de la culture en Île-de-France. Or, le plan du tourisme culturel de 2024 est de valoriser davantage ce potentiel régional, avec une attention particulière portée aux zones plus éloignées des flux touristiques traditionnels, ce qui permettrait de faire découvrir ou redécouvrir la richesse patrimoniale et culturelle de la région Île-de-France, aux touristes français comme internationaux. Faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine régional à l'ensemble des Franciliens. Et oui, l'Île-de-France ne se limite pas à Paris. Il y a des châteaux à explorer comme Fontainebleau, Château de Versailles, et des musées, les festivals, ce qui anime également la scène culturelle de la région. Quelles sont les actualités du jour concernant le tourisme culturel ? Notre fait d'actualité de l'année prochaine, la programmation de l'Olympiade culturelle, avec les équipes de Paris 2024 depuis 2021. L'objectif est de faire vibrer la culture et le sport à l'unisson, avec des temps forts sur l'ensemble des territoires franciliens, dans lesquels sont attendus 15 à 20 millions de visiteurs. Après, nous avons l'UNESCO, qui poursuit son travail interdisciplinaire en faveur des centres d'accueil de visiteurs des sites de l'UNESCO par le biais d'une série d'ateliers, pour renforcer la durabilité du tourisme, la participation des communautés et l'éducation à travers de l'interprétation du patrimoine. Et après, nous avons l'apparition du tourisme musical. Donc les groupes et les artistes musicaux n'ont pas pu se produire pendant des mois du fait du Covid. Le boom des concerts et des festivals a monté cette année. Le désir de reconnexion. Cette tendance devrait s'accélérer à l'approche de 2024. Enfin, on peut dire avec certitude que voyager, c'est donner un sens à sa vie. C'est une citation de Pierre Rabhi. Et cela prend tout son sens lorsqu'on évoque le tourisme culturel.
Ok, donc Loan, tu nous as parlé du tourisme culturel en Île-de-France, mais selon toi, quel est le monument le plus visité en France ?
Il s'agit de la Tour Eiffel à Paris. Car oui, c'est un symbole emblématique du pays qui attire des millions de visiteurs chaque année, qui viennent admirer son architecture unique et profiter de la vue panoramique sur la ville depuis ses différents étages.
Et quel est ton lieu culturel préféré que tu as visité en France et pourquoi tu l'as apprécié ?
Je choisis Paris, car c'est un lieu que j'affectionne beaucoup et que j'ai préféré visiter. Pour ses lieux culturels, comme le musée du Louvre avec ses différentes œuvres d'art, la Tour Eiffel que j'ai évoquée précédemment, le jardin des Tuileries où j'ai pu profiter de ses beaux paysages avec les statues, les fontaines, les allées bordées d'arbres, c'est ici où j'ai compris la beauté de Paris. Cependant, c'est mon lieu préféré car il y a une raison bien particulière à ça. C'est l'art de la danse. C'est un véritable foyer pour les amateurs de la danse avec un endroit réputé comme le Lac Studio. C'est un studio de danse avec des artistes qui proposent des cours de danse avec des styles variés comme le hip-hop, le dance-hall commercial, afro et bien plus encore. C'est une expérience qui m'a permis de m'ouvrir dans la danse et de rencontrer de vrais danseurs.
Ok, et est-ce que tu as déjà visité des brasseries artisanales ?
Bah oui, figurez-vous que très récemment, j'ai pu visiter la brasserie La Goudale de Arc lors d'une visite guidée. où j'ai appris des choses nouvelles, comme le processus de fabrication de la bière, son histoire. Je ne me doutais pas que la bière avait un système de fabrication aussi long et spécifique. J'ai pu découvrir aussi les ingrédients et j'ai remarqué que la goudale de Arc comprend la satisfaction des clients. Cette visite a été très enrichissante.
Ok, bah bien, merci pour ta chronique.
Il n'y a pas de souci.
Du coup, on va continuer avec la mienne. Donc moi, je vais commencer par une petite actualité cinéma avec le dernier film de Ridley Scott qui est sorti. Donc c'est Napoléon dans le rôle principal et Joaquin Phoenix. Donc on verra un petit peu près les difficultés que les acteurs ils peuvent rencontrer lors d'un film. Donc on a le réalisateur, Ridley Scott, qui a déclaré que Joaquin Phoenix était dans une totale incertitude face à son rôle et qu'il ne savait pas quoi faire. Du coup, pendant 10 jours, Joaquin Phoenix et Ridley Scott, ils se sont retrouvés et ils ont réécrit toutes les scènes et ça a donné droit au film qui est sorti. Donc, du coup, je vais continuer avec ma chronique. Donc on garde tous un bon souvenir au cinéma, que ce soit avec sa famille, ses amis ou encore sa compagne ou son compagne. Mais à cause de l'émergence des arrivées des plateformes de streaming, on peut se demander si cela se perd. Donc on verra est-ce que les plateformes de streaming ont un impact négatif sur le cinéma. Donc on va parler des changements d'habitude de consommation. Donc le gros avantage des plateformes de streaming, c'est qu'on peut les regarder quand on veut et surtout où on le veut. Et en plus, depuis le Covid, toutes les salles étaient fermées, donc le consommateur, naturellement, il s'est redirigé petit à petit vers les plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+. On a une étude qui a été réalisée par l'IFOP, donc une étude sur 2000 personnes de 15 ans en 2022. Et cette étude, elle dit que depuis qu'ils sont abonnés aux plateformes de streaming, on a un tiers des personnes interrogées qui déclarent y aller moins souvent, plus de la moitié qui déclarent y aller comme avant, et seulement 12% qui n'y vont plus du tout. On peut aussi constater que depuis le Covid, on a 32% d'abonnés en plus depuis mars 2020 et 10% depuis la fin du confinement sur les plateformes de streaming. A noter qu'également, les plateformes de streaming, les abonnés, on a 52%, donc soit plus de la moitié, qui regardent essentiellement des séries. Et au cinéma, à ce que je sache, on ne projette pas de séries, on projette que des films. Du coup, on verra, on va voir pourquoi les consommateurs se redirigent petit à petit vers les plateformes de streaming. Donc, faut noter que les utilisateurs de plateformes de streaming, on en a seulement 46% qui vivent en dehors des villes. Donc, c'est les personnes qui sont éloignées de toute salle de cinéma, qui n'ont pas forcément le temps d'aller au cinéma. On peut aussi noter que plus les salles se modernisent, plus les prix y grimpent. On parle d'une inflation de 2,2% par an. Pour profiter de l'expérience au maximum au cinéma, on paye la place, donc ça fait déjà 7,50€ par personne, plus les boissons, les pop-corn, donc ça revient facilement à 15€ par personne. Donc un père qui veut emmener sa famille, la sortie, elle devient très vite chère. Il y en a certains qui disent même que le cinéma, ça commence à devenir un loisir de luxe. Et si on compare les prix avec, par exemple, Netflix, c'est seulement 11€ par mois. Donc tous ces facteurs-là, ça fait que les personnes se redirigent petit à petit vers les plateformes de streaming. Si on prend un petit peu plus de recul, on paye pas seulement la place, on paye aussi le déplacement de son temps, l'essence, sans même savoir si le film va nous plaire. Tandis qu'avec les plateformes de streaming, en 2-3 clics, si le programme il nous plaît pas, on peut le changer. Donc du coup, pour conclure, je pense que le cinéma, il a rien à craindre. Certes, les plateformes de streaming, elles peuvent impacter de manière négative le cinéma, mais je pense que c'est à petite échelle. Le cinéma, c'est quelque chose qui est ancré dans notre culture. Et tant qu'il y aura de la création, je pense qu'il y aura des gens qui seront prêts à aller voir des films au cinéma. Donc voilà, pour clôturer un petit peu ma chronique, j'aimerais savoir faire un petit sondage rapidement autour de la table. Vous préférez quoi ? Vous êtes plus team plateforme de streaming ou vous allez quand même au cinéma ? Qu'est-ce que vous faites ? Lénie, qu'est-ce que tu fais ?
Ah, moi, je préfère carrément le cinéma. Je préfère
l'ambiance du cinéma et tout ça.
Ouais, j'aime bien.
Ouais. Et toi, Loan ?
Moi, je préfère l'ambiance du cinéma aussi, mais j'avoue que Netflix, ça me tente aussi.
Ah ouais, t'es plus sur les deux, entre les deux. Toi, Jérémy ?
Moi, je préfère Netflix, mais après, c'est vrai que le cinéma, c'est notre ambiance, c'est mieux.
Bah moi, je suis du même avis que vous. Hein. Netflix, je suis particulièrement sur les plateformes de streaming, mais ça ne me dérange pas d'aller au cinéma de temps en temps. Donc voilà. Et donc voilà, nous nous retrouvons maintenant pour aborder la chronique de Thibaut et ensuite celle de Lénie. Donc Thibaut, on te laisse champ libre à toi, vas-y.
Et bien maintenant, nous allons parler des plateformes de streaming, mais de musique cette fois-ci. Le marché du streaming est en plein boom. Entre 2020 et 2021, les revenus de la consommation musicale ont augmenté de 24,3%. Il n'y a pas seulement les abonnements des plateformes musicales qui augmentent, mais aussi le temps d'écoute des abonnés qui lui aussi est en hausse, et le chiffre d'affaires aussi. Qu'en est-il des artistes et de l'avenir de ces plateformes? Sont-ils correctement rémunérés? C'est ce que l'on va aborder dans cette chronique. En effet, le streaming musical résiste par rapport au streaming vidéo, qui lui est en baisse. Netflix a perdu plus de 200 000 abonnés en 3 mois, alors que les analystes prévoyaient d'en gagner au moins 2,5 millions d'abonnés. Quant au streaming musical, qui lui est en hausse, les experts s'inquiètent que cette baisse touche aussi le streaming musical. Or, le streaming musical étant le principal vecteur mondial d'écoute de la musique, sur 25,9 milliards de dollars, 16,9 provient du streaming musical, soit 65% des revenus totaux de la musique en 2021. C'est ce qu'indique la Fédération internationale de l'industrie phonographique dans son dernier rapport. Il y a plusieurs raisons à la persistance de ces plateformes. Donc moi, je vous pose cette question. D'après vous, quelles sont ces trois raisons?
Moi, je pense qu'il y a un facteur aussi qui fait que on peut écouter des musiques quand on veut et surtout où on veut.
Oui, exactement. Et les deux autres raisons sont qu'il y a le besoin de déconnexion, donc de pouvoir voyager à travers la musique et de se poser. Et la dernière est que c'est un mode de consommation adopté par tous et quel que soit l'âge des consommateurs. Mais malgré que le streaming musical soit en pleine forme, la rémunération des artistes via ces plateformes, elle, ne l'est pas. Effectivement, la rémunération des artistes via les plateformes musicales est assez critiquée. C'est pourquoi Deezer et la SACEM essayent d'y remédier en se focalisant plus sur les artistes. Dans un article de boursier.com, je cite « Deezer attribuera un double bonus aux artistes professionnels qui ont un minimum 1000 streams par mois avec au moins 500 auditeurs uniques. Afin de les rémunérer plus équitablement pour la qualité et l'engagement qu'ils apportent sur la plateforme et pour les fans, les deux partenaires s'engagent à réimaginer le modèle actuel du streaming et de nouvelles méthodes de distribution. Ce modèle est artiste-centrique et il consiste à mieux rémunérer les artistes. Deezer veut lutter contre la fraude, donc va renforcer son système de détection de fraude, supprimer les possibilités de manipulation du système et protéger les artistes. Il y a aussi le fait de démonétiser les contenus non musicaux. Donc il y a les bruits de pluie, tout ce qui est les bruits ASMR pour dormir ou quelque chose comme ça. Donc ça sera démonétisé. Les artistes seront donc rémunérés à partir de 1000 streams par mois avec 500 auditeurs uniques. Ils recevront aussi un bonus si leur nom est directement recherché. Donc si leur nom d'artiste il est recherché dans la barre de recherche, ils recevront un bonus. J'ai donc une question à te poser, Hugo. À ton avis, de combien de pourcents la rémunération des artistes a augmenté? Un pourcentage.
Un pourcentage, moi je dirais 34%.
C'est quand même assez haut. Non, c'est 10%. Ah, okay. Donc là, oui, effectivement, la rémunération des artistes passera de 0,0046€ par stream à 0,0506€ par stream. Donc c'est très peu, mais ça peut faire la différence quand on est artiste ou même jeune artiste. Quant à Spotify, des modifications concernant le modèle de rémunération sont possibles au premier trimestre de l'année 2024. Deezer semble être le précurseur d'un changement sur les plateformes de streaming. On peut donc se dire que l'avenir des plateformes de streaming est en bonne voie et qu'il faut espérer que toutes les plateformes de streaming musical suivent le même chemin.
Eh ben, merci pour ta chronique, Thibaut.
Mais il n'y a pas de quoi.
Elle était très intéressante. Donc maintenant, on va passer à la dernière chronique, qui est la chronique de Léni. Donc on t'écoute, Léni.
Yes. Bah, je vais vous parler des impacts des réseaux sociaux sur nos vies. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans l'univers captivant des réseaux sociaux. Les plateformes numériques qui ont révolutionné la manière dont nous communiquons, nous partageons et nous interagissons. Mais parlons un peu de l'impact qu'ils portent sur nos vies. Les réseaux sociaux, ils ont créé un nouveau paysage de communication rapprochant les individus à travers le monde. Facebook, Twitter, Instagram ou encore TikTok, chaque plateforme offre un espace pour partager différents moments de vie, des idées et de créer des communautés autour d'intérêts communs. Cependant, cette virtualité n'est pas sans conséquence. Les réseaux sociaux ont modifié nos comportements, notre façon de percevoir le monde. Ils arrivent parfois à modifier nos opinions, nos estimes de soi et notre santé mentale, ou parfois même créer des pressions sociales. En France, des enfants reçoivent leur premier téléphone et donc la possibilité de se connecter aux réseaux sociaux dès leur entrée en CM2, soit à 8 ans. Donc comment dire qu'à la rentrée de 6e, la plupart des enfants sont tous équipés, même si en France, il faut avoir minimum 15 ans pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Beaucoup mentent sur leur âge avec facilité. Aujourd'hui, 92% de la génération X consulte les réseaux sociaux quotidiennement, où la moitié d'entre eux utilisent TikTok. TikTok, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais c'est un réseau social dédié à la création et au partage de vidéos courtes. Ce réseau attire des gens du monde entier. C'est un espace qui permet d'échanger, de créer un lien, mais aussi surtout un espace qui fait devenir accro les jeunes. Mais le truc, c'est que parfois les défis qui sont sur TikTok peuvent devenir dangereux, voire mortels. Je peux vous illustrer les faits avec le fameux challenge hyper dangereux, la trend de la virgule sur TikTok. Je ne sais pas si vous avez vu passer. Il a été lancé il y a 2-3 mois. C'est un défi qui peut faire mal au cervical notamment.
Mais d'où vient cette trend notamment et qui a inventé ça?
Cette trend elle vient de France, c'est Made in France. Bon, je ne sais pas si on peut être fier, mais je dirais que c'est plutôt négatif que ça vienne de France, quoi. Le concept, c'est de tordre le cou d'une victime qui se doute de rien. D'abord dans un sens et puis dans l'autre, il s'agirait d'une imitation de foot lorsqu'on passe le ballon autour du pied dans le mouvement de la virgule. Mais ici, ils utiliseraient la main à la place du corps et la tête en guise de ballon. Ce challenge pourrait provoquer des lésions ou encore des difficultés de communication entre la tête et le reste du corps. En plus des mauvais exemples que les jeunes sont influencés de suivre s'ajoute à ça des problèmes de santé mentale. Des études démontrent que les problèmes mentaux sont en progression depuis l'utilisation massive des réseaux sociaux. Les symptômes de l'anxiété, de la dépression et encore de la solitude sont accentués chez les gens qui passent de 3 à 6 heures par jour sur les médias sociaux. Les réseaux sociaux ont une force puissante sur le comportement des individus, mais ils ont aussi des avantages. Je vais vous parler d'une belle histoire de Noël. Il s'agit d'un Chinois âgé de 37 ans, enlevé par un réseau de kidnappeurs lorsqu'il était enfant. Et il a quand même réussi à retrouver sa famille grâce aux réseaux sociaux.
Mais on se demande tous comment cela est-il possible de retrouver sa famille dans un pays peuplé par des milliards d'habitants.
C'est un 24 au soir qu'il a décidé de faire une vidéo sur TikTok en postant un dessin de son village d'enfance. Il l'a fait à l'aide de ses souvenirs, car ça faisait 30 ans qu'il ne l'avait pas revu. Il a su replacer une école, un pont et une forêt de bambous. Cela a permis aux policiers de retrouver le petit village de Zhangtong en Chine, où effectivement une femme avait signalé un enlèvement en 1989 de son fils. Et suite à ça, il y a eu des tests ADN qui ont été réalisés et ils ont pu attester un lien biologique entre la mère et son fils, si c'est pas beau quand même. On pourrait même appeler ça la magie d'Internet. Voilà pour moi.
Donc voilà, l'émission elle touche maintenant à sa fin. Donc on vous remercie une fois de plus d'avoir choisi Culture Flip. On espère que cette émission vous a plu. Et on vous laisse avec l'invité mystère. Allez, salut!
Oui, bonjour madame. Je suis Jérémy Delohan. Et donc voilà. Donc je voulais vous poser la question. En quoi votre métier est en lien avec le tourisme culturel?
Oui, bonjour. Donc, je me présente vite fait, hein, comme vous connaissez déjà. Je suis propriétaire de JT Vasion. Donc, moi, le métier, c'est les gîtes de. C'est gîtes insolites. Donc, et chambres d'hôtes. Donc, en fait, par rapport au patrimoine culturel, donc ça, nous, notre clientèle, elle englobe tout ce qui est, il y a une forte demande au niveau musée, monuments historiques et surtout les sites naturels. Donc on les oriente de par notre métier, donc c'est tout notre intérêt d'ailleurs, on les oriente sur ces sites-là, et surtout sur les sites naturels, parce qu'on est dans... Je suis passée entre le Boulogne et le Marois, donc on a des sites vraiment remarquables par rapport à tout ce qui est patrimoine de l'UNESCO, comme Clermarais avec les promenades en bacon, avec la location des bateaux à moteur, etc. Et donc, ça donne, on organise aussi en partenariat avec le faiseur de bateaux. Des visites guidées qui plaisent vraiment bien par rapport à la visite de l'atelier. C'est le dernier fabricant artisanal de Bakov. Et donc, c'est un atelier où il explique aux gens la fabrication des barques de maraîchers, qui étaient faites complètement en bois. Et après, ils en vendent sur une visite des marais en prenant les personnes sur une heure ou 30 de visite. Donc ça, nous, on a un public très, très friand de toutes ces activités-là. Donc, ça fait partie du patrimoine culturel, hein, le savoir-faire local, comme l'artisanat dont je viens de citer. Et aussi, nous, pour pouvoir garder les clients, donc en tant que gîte et chambre d'hôtes, on propose la table d'hôte aussi, c'est-à-dire on propose de vivre un moment de convivialité en mangeant à notre table en fait des produits régionaux que je cuisine moi-même. Et donc ça permet aussi de partager un moment de convivialité et de connaître le savoir-vivre et le savoir-faire de la restauration, disons, régionale ici, en fait. Donc, je fais des piments comme la carbonate, la menthe, la base de maroilles, donc tous ces petits-là, ces petits plats-là où les gens sont assez friands de tout ça. Donc, voilà, tout ça, ça permet de garder les gens en séjour plus long. C'est-à-dire, au lieu qu'ils viennent simplement une ou deux nuits, en leur proposant plein d'activités comme ça, liées au site naturel, hein, comme si on est entre Saint-Omer et la côte d'Opale aussi, donc il y a le site des deux capes. Donc on propose aussi de donner un thème en partenariat avec N62, comme c'est possible. Et donc ça permet de pouvoir voir tous ces sites remarquables. Et donc, on peut organiser sur plusieurs jours, sur 5 jours minimum, des journées à thème comme ça. Après, il y a aussi, s'ils sont plutôt musées, il y a aussi Nausicaa aussi. Ou alors, s'ils sont plutôt découvertes des musées sur la Seconde Guerre mondiale, il y a la coupole, il y a le blocus thermique.
Oui, on peut les orienter en fonction de leurs désirs. Et oui, d'accord, oui.
C'est important parce que les gens, en fait, ils ont un conseil, et puis du fait que je suis quelqu'un de local, ça permet de valoriser tout ce qu'il y a ici dans la région. Donc, ça valorise le patrimoine culturel dont les sites naturels font partie, ainsi que l'artisanat et le savoir-faire local, comme on peut dire. La cuisine en chambre d'hôte, donc ça fait partie de ce patrimoine culturel, en fait.
Oui, d'accord. Eh bien, écoutez, merci bien pour votre discours sur le tourisme culturel. Merci beaucoup.
Bah de rien, je vous en prie. Puis bonne continuation dans vos études.
Oui, merci, et à vous aussi.
Merci. Au revoir.
Au revoir.